Légende d'automne. Chapitre 1er. À la fin du mois d'octobre 1914, trois frères partirent à cheval de Chautauqua, dans le Montana, vers Calgary, en Alberta, pour s'engager dans l'armée et participer à la Grande Guerre. Les États-Unis ne s'y impliqueraient qu'en 1917. Un vieux Cheyenne, nommé Incou, les accompagnait. Il devait ramener au ranch ses chevaux racés que le père avait donnés à ses fils parce qu'il jugeait inconcevable qu'ils partent à la guerre sur des carnes. Comme Incou connaissait tous les raccourcis dans le nord des montagnes rocheuses, ils voyagèrent en pays sauvage, le plus souvent à l'écart des routes et des campements. Ils avaient quitté le ranch avant l'aube. Leur père était vêtu de son long manteau en peau de bison et tenait une lampe à pétrole dans l'écurie où tous restaient silencieux. Quand il les étreignit au moment des adieux, les menus panaches blancs de son haleine montèrent vers les poutres du toit. Au point du jour, un vent violent secouait les trembles jaunies, dont les feuilles voltaient au-dessus de la prairie d'altitude avant de s'amasser dans une ravine. Lorsqu'ils traversèrent à gué leur première rivière, les feuilles des peupliers arrachées par les bourrasques tourbillonnaient dans l'eau ou se collaient aux rochers. Ils s'arrêtèrent pour observer un aigle à tête blanche, chassé des hautes montagnes par les premières neiges, qui poursuivait en vain une bande de canards colverts dans les fourrés. Même au fond de la vallée où ils cheminaient, ils entendaient le vent rugir, siffler et hurler contre les parois glacées dominant la cime des arbres. Vers midi, ils franchirent la crête d'une cordillère et se retournèrent pour voir une dernière fois le ranch. Seuls les frères embrassèrent du regard ce paysage grandiose, balayé par les bourrasques qui rendaient l'air si pur que le ranch, déjà éloigné d'une trentaine de kilomètres, semblait incroyablement proche et beau. Mais Incou ne se retourna pas, car il craignait les épanchements inutiles, et il continua de regarder droit devant lui d'un air dédaigneux quand ils traversèrent la voie de chemin de fer de la Northern Pacific. Un peu plus loin, tous entendirent le hurlement plaintif d'un loup, et ils firent comme si de rien n'était, car un tel hurlement en milieu de journée était le pire des présages. Ils déjeunèrent tout en continuant de chevaucher, comme pour échapper à ce sinistre augure, et parce qu'ils ne voulaient pas s'asseoir à l'orée d'une clairière où ce cri risquait de se faire à nouveau entendre. Alfred, l'aîné, récita une prière, tandis que Tristan, le cadet, jura et éprona sa monture pour dépasser Alfred et Incou. Samuel, le benjamin, lambinait en observant de près la faune et la flore. C'était l'enfant chéri de la famille. À 18 ans, il venait de passer un an à Harvard, où, dans la tradition d'Agassiz, il avait étudié au Peabody Museum. Lorsque Incou s'arrêta au bout d'une vaste prairie pour attendre Samuel, il sentit son cœur se glacer en voyant le cheval rouant émerger de la forêt et son cavalier tenir devant son visage un demi-crâne blanchi de bison avant d'éclater d'un grand rire qui traversa l'espace jusqu'au vieil Indien. Au troisième jour de leur voyage, le vent tomba et l'air se réchauffa, l'éclat du soleil atténué par une brume automnale. Tristan abattit un chevreuil, au grand dégoût de Samuel, que seule une politesse instinctive convainquit de goûter à cette viande. Comme d'habitude, Alfred se montra songeur et laconique, se demandant comment Tristan et Incou pouvaient manger autant de gibier. Ils préféraient le bœuf. Quand Tristan et Incou entamèrent leur festin en se partageant le foie de l'animal, Samuel déclara en riant que lui-même était un omnivore qui finirait herbivore, mais que Tristan était un authentique carnivore capable d'emmagasiner ses forces pour ensuite chevaucher, dormir ou encore boire et forniquer pendant des jours. Tristan donna le restant de la carcasse à un rustre local qui les avait laissés dormir dans sa grange délabrée qu'ils avaient préférée à la puanteur ammoniaquée du chalet bourré de marmailles. Ce paysan ignorait bien sûr qu'une guerre faisait rage en Europe, et il ne savait pas non plus très bien où se trouvait l'Europe. Au dîner, Samuel s'enticha contre toute attente de la fille aînée, à qui il cita un vers de Heinrich Heine en allemand, la langue maternelle de cette famille. Le père éclata de rire. La mère et la fille, gênées, quittèrent la table. Quand ils repartirent à l'aube, la fille offrit à Samuel une écharpe qu'elle avait passé la nuit à tricoter. Samuel lui baisa la main, promit de lui écrire, et lui donna une montre de gousset en or pour qu'elle la garde jusqu'à son retour. Un coup observa la scène depuis le corral, où il harnachait les chevaux. Il saisit la selle de Samuel comme s'il tenait la fatalité elle-même entre ses mains, la destinée occupant toujours les profondeurs les plus ténébreuses de l'âme féminine. Pandore, Méduse, les Bacchantes, les Furies sont certes des déesses qui transcendent la notion de sexe, mais femmes avant toute chose. À quoi bon tenter de raisonner avec la mort? Autant vouloir peser la terre ou le cœur de la beauté. Ils chevauchèrent jusqu'à Calgary dans la splendeur épanouie d'un bref été indien. Un incident désagréable survint dans une taverne du bord de route où ils attachèrent leurs montures pour se désaltérer d'une bière. Le propriétaire refusa de laisser entrer un coup. Samuel et Alfred essayèrent de le faire changer d'avis. Puis Tristan arriva après avoir fait boire les chevaux, jaugea la situation et d'un coup de poing assomma le gros patron de la taverne. Il lança une pièce d'or à l'employé qui brandissait nerveusement un pistolet, prit une bouteille de whisky et un seau de bière, puis ils sortirent pique-niquer sous un arbre. Alfred et Samuel haussèrent les épaules, habitués depuis longtemps aux frasques de leurs frères. Un coup appréciait le goût de la bière et du whisky, mais il se rinça simplement la bouche, puis les recracha par terre. C'était un Cheyenne qui avait passé ses 30 dernières années en territoire Cree et Blackfoot, et qui avait décidé qu'il ne se saoulerait plus à moins d'avoir l'occasion de retourner à Lame Deer avant sa mort. Cette façon qu'il avait de recracher l'alcool fit rire Samuel et Alfred, mais pas Tristan, qui la comprenait, car il était proche d'un coup depuis l'âge de 3 ans, alors que Samuel et Alfred accordaient peu d'attention à l'Indien. À Calgary, ils eurent droit à un accueil exceptionnel pour de simples recrues. Le chef d'escadron réunissant la cavalerie locale venait en effet de la même région des Cornouailles que leur père. À Falmouth, il s'était embarqué sur une goélette la même année que lui, mais à destination de Halifax au lieu de Baltimore. Cet officier était scandalisé par le refus des États-Unis d'entrer dans une guerre qu'il devinait, à juste titre, plus monstrueuse et éprouvante que la vision optimiste et naïve de ces Canadiens pour qui le Kaiser et ses Huns s'enfuiraient dès qu'eux-mêmes débarqueraient sur le continent. Mais pareilles vantardises et cervelées sont très appréciées chez les soldats, qui constituent pour l'essentiel de la chair à canon au service des machinations internationales de l'économie et de la politique. Pendant le mois de formation précédant leur voyage en train jusqu'à Québec et la traversée à bord du navire transporteur de troupes, Alfred devint rapidement officier. Samuel, aide de camp, grâce à son excellente connaissance de l'allemand et à son talent pour lire les cartes topographiques. Tristan, quant à lui, but, se bagarra et se vit relégué aux corvées d'écurie, où il se trouva parfaitement à l'aise. Il n'aimait pas l'uniforme et les exercices militaires l'ennuyaient à mourir. Sans la loyauté qui le liait à son père et à sa conviction qu'il devait veiller sur Samuel, il se serait échappé du casernement et aurait volé un cheval pour retourner vers le sud, sur les traces d'un coup. Près de Choteau, William Ludlow, colonel en retraite du génie de l'armée des États-Unis, passait des nuits sans sommeil. Le matin où ses fils étaient partis, il avait pris froid, et il resta une semaine alité en guettant par la fenêtre donnant au nord le retour d'un coup et les nouvelles, si rares et vagues soient-elles, que l'Indien rapporterait. Il écrivit de longues lettres à son épouse, qui passait l'hiver à Pride's Crossing, au nord de Boston, mais avait aussi une maison sur Louisburg Square pour ses soirées à l'opéra ou au concert symphonique. Elle aimait beaucoup le Montana entre mai et septembre, mais n'appréciait pas moins de monter dans le train qui la ramenait à la vie civilisée de Boston, adoptant ainsi un mode de vie alors très répandu chez les riches propriétaires terriens. Contrairement à une opinion aussi fausse que répandue, aucun cow-boy n'a jamais possédé le moindre ranch. Ce n'était guère plus que les hippies errants et entraînés de leur époque, des cosaques de montagne qui connaissaient beaucoup mieux les animaux que leurs semblables.